franceinter.fr.
Et on poursuit sur le même sujet avec vous, Hélène Jouan, bonjour.
Bonjour.
Retour sur le week-end politique dans la presse ce matin.
Dieu est mort, Marx est mort, et nous-mêmes, nous ne nous sentons pas très bien. Voilà, en paraphrasant Woody Allen, ce que vos quotidiens retiennent en effet ce matin, et de la droite et de la gauche. Alors d'abord, le Parti Socialiste. Eh bien, le PS est un esquif en perdition, tranche ce matin Yves Tréard dans le Figaro. Sans barreur, ni programme, au bord qui plus est de la faillite financière. Comme le parti radical socialiste avant lui, vous l'avez évoqué tout à l'heure Benoît Hamon, le PS est voué à l'effacement, à la marginalisation. Sans grande conviction, ses derniers affidés parlent de rénovation idéologique et organisationnelle. Mais le cœur n'y est plus, le PS est moribond. Et la droite aura fort à faire si elle ne veut pas subir le même sort, relève-t-il. Oui, c'est bien ce parallèle entre l'état du Parti Socialiste et l'état du Parti Les Républicains que beaucoup d'éditorialistes de la presse régionale font ce matin. L'interview cash, voire trash, hier, du président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, au journal du dimanche, continue de susciter des commentaires. Ses mots acides contre Laurent Wauquiez. Il court, a-t-il dit, contre l'extrême droite. Et puis son...
Après
l'extrême droite, oui.
Pas contre.
Non, pas contre. Et puis, nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Laisse augurer du pire. Vous avez aimé la guerre Fillon-Copé, pronostique déjà Guillaume Tabar. Eh bien, vous allez adorer le match Pécresse-Wauquiez. Autant dire que la droite s'apprête à refaire exactement la même erreur qu'il y a 5 ans, se lancer dans une guerre des chefs, sans analyse rigoureuse de son échec, sans réflexion ambitieuse sur l'identité et le projet d'une droite post-Macron.
Un paysage politique nouveau donc, où tout est à réinventer.
Oui, c'est votre objectif, vous l'avez dit Benoît Hamon, vous nous l'avez expliqué. Eh bien c'est aussi ce que se propose de faire Jean-Luc Mélenchon dans son nouveau point d'ancrage, Marseille. La gare de Perpignan avait été décrétée centre du monde par Dali. Eh bien Marseille est appelée à devenir centre de la France insoumise, si l'on en croit en tout cas Christophe Deroubet dans le quotidien L'Humanité ce matin. Le nouveau député de Marseille aurait l'intention de faire de sa permanence l'un des sièges nationaux de son mouvement. Elle devrait accueillir une école de formation, des cahiers de doléances y seront ouverts prochainement, qui nourriront une plateforme collaborative. Alors l'objectif de Mélenchon, c'est que Marseille devienne le berceau d'un nouveau rassemblement, les contours sont encore un petit peu flous, entre auto-organisation intellectuelle et force sociale, le tout, dit-il, pour peser sur la construction de la gauche du XXIe siècle. Les municipales sont-elles en ligne de mire? Pas tout de suite en tout cas, affirme un proche de Mélenchon. Dans la Provence, l'actuel maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, confirme lui qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. D'ici là, dit-il, que mes amis se mettent d'accord sur un nom. En tout cas, vu tout le mal qu'il dit dans cette interview de son ancien ami et actuel président de la région PACA, Renaud Muselier, on pressent que la guerre des droites passera aussi par Marseille. En attendant, l'exécutif Macron-Philippe, Édouard Philippe, se livre à une nouvelle chorégraphie, nous explique Cécile Cornudet dans Les Échos. Au président, la geste positive, il réserve sa parole pour l'essentiel, en l'occurrence l'Europe, et il se déploie le reste du temps dans la langue des signes, pour reprendre l'expression de François Bazin. Alors la langue des signes, c'est la communication pilant à l'heure des réseaux sociaux, ça donne Emmanuel Macron qui smash ce week-end pour promouvoir la candidature de Paris au JO 2024, et puis à son gouvernement, en revanche, la confrontation plus rugueuse au réel. Pour Cécile Cornudet, c'est un retour à la logique présidentielle de la Ve République. Oui, enfin, un peu plus Bonaparte que Montesquieu, relève quand même Françoise Fressoz dans la matinale du Monde, qui rappelle comment le président élu s'est glissé avec une facilité déconcertante dans l'habit du monarque républicain. Majorité boursouflée à sa main, un président de groupe désigné, Richard Ferrand, contre lequel personne n'a osé se présenter, même pour simuler un semblant de liberté, remaniement du gouvernement en éliminant les gêneurs comme François Bayrou, et une presse qui vit des heures difficiles parce qu'elle est à peine informée, détaille Françoise Fressoz. Comme personne n'avait anticipé que le macronisme ressemblerait à cela, dit-elle, tout le monde se perd en conjectures. Cette phase autoritaire est-elle un épisode transitoire ou un état appelé à durer ? Avoir la mine déterminée du premier consul, le doute est permis, conclut-elle.
On termine, Hélène, en parlant des hommes.
Des hommes et de la mode. Figurez-vous que les défilés parisiens du prêt-à-porter masculin printemps-été 2018 ont dévoilé quelque chose que nous ignorions, semble-t-il. Les hommes aussi ont des jambes. Ne ricanons pas, nous prévient Libération, car un progrès est bel et bien à l'œuvre. La Fashion Week Homme 2018 a sacré le Bermuda, donc dans tous ses états, et ça n'atteste rien de moins que la mode n'est pas qu'une bulle d'une insoutenable légèreté, mais qu'elle reflète la marche de la société, voire qu'elle la précède. La preuve, en pleine canicule, le 20 juin dernier, 6 conducteurs de bus de Nantes sont venus travailler en jupe, leur employeur leur interdisant le port du Bermuda. Et bien, 2 jours plus tard, après un buzz incroyable et international, l'entreprise annonçait Eureka qu'elle autorisait le port du dit Bermuda les jours de canicule. Ça tombe bien, Hermès, Dior Homme, comme des garçons, proposent désormais le vêtement dans toutes les versions, décontracté ou chic, à rayures ou pailletées. Bon, c'est cher à chaque fois, pas forcément destiné à tout le monde et peut-être pas non plus aux conducteurs de bus, mais qu'importe, ce qu'il faut retenir, c'est que la mode a précédé la canicule et le dressing code suranné des entreprises. Alors je termine en vous signalant, ça n'a rien à voir, la naissance du premier pure play de photojournalisme, rdv-photo.com, c'est un site payant pour découvrir des sujets d'actualité ou de magazines, illustrés donc par des photographes de presse. À la une, par exemple, ce matin, les ouvrières de Sansonite, licenciées en 2007, qui racontent leur combat sur scène, ou encore Six Feet Under, 6 pieds sous terre, mais alors pour de vrai, avec des cimetières surpeuplés qu'il faut désengorger. Pour les amateurs, donc, et les nostalgiques de vrais reportages photos.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.